Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network. L'école des DJ et du son.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Prod, le podcast de la production musicale. Au programme de cet épisode, comment intégrer les bonnes playlists? Ces 10 dernières années, l'industrie musicale a dû se réinventer. La crise du disque qui a sévi au début des années 2000 a engendré une chute du chiffre d'affaires mondial. Grâce au streaming, l'industrie musicale a pu rebondir et connaît à nouveau une croissance économique. Des entreprises comme Spotify, Deezer ou encore Tidal ont changé les habitudes de consommation de la musique et sans doute dessiné les contours de ce que sera l'industrie musicale de demain. Mais comment ces plateformes fonctionnent-elles? Quels sont les nouveaux métiers qui ont vu le jour? Nous allons parler des différents moyens de générer des revenus en streaming et des bonnes pratiques pour être plus visible sur ces plateformes devenues incontournables. Pour commencer, nous accueillerons Dorian Perron, fondateur de la plateforme Groover. Groover est une jeune entreprise française ayant pour vocation de mettre en relation des artistes avec des professionnels du secteur, en les aidant par exemple à rejoindre les playlists des plateformes de streaming. Avec lui, nous verrons comment ce système fonctionne et comment cela peut vous aider à promouvoir vos projets musicaux. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous évoquerons les enjeux du streaming et comment arriver à se différencier face à la multitude de nouvelles musiques qui sort chaque jour. Enfin, nous vous donnerons quelques conseils et astuces pour optimiser votre mixage audio et votre mastering afin que vos productions soient parfaitement calibrées pour l'écoute sur les plateformes de streaming. Voilà pour ce sommaire encore bien chargé. Let's Prod, c'est parti.
Let's Prod.
Nous accueillons tout de suite Dorian Perron, fondateur de la plateforme Groover. Bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, nous aimerions savoir comment se porte réellement le streaming aujourd'hui.
Je pense que par rapport à il y a quelques années où il n'y avait vraiment aucun artiste qui tirait des revenus pertinents du streaming, aujourd'hui ça change. Il y a évidemment les poids lourds qui touchent des revenus intéressants grâce au streaming et qui arrivent à vraiment développer une visibilité. Et je pense qu'il y a toute une classe d'artistes, je dis classe volontairement un peu de manière clivante, mais qui peut être une sorte de classe moyenne, on peut dire, d'artistes, qui vont faire suffisamment d'écoutes et de streams pour pouvoir tirer des revenus intéressants. Je crois que c'est Believe, et nous on le voit même avec Groover, qui parlait sur le fait qu'il y avait un objectif d'avoir à terme au moins 1 million d'artistes qui arrivent à tirer un revenu qui permet de vivre, en tout cas de survivre correctement juste via le streaming. Donc c'est un objectif qui est ambitieux mais qui est un minimum quand on sait qu'il va y avoir potentiellement 50 millions de créateurs musicaux d'ici 2025. Après, c'est vrai qu'il y a un sujet qu'il faut faire beaucoup d'écoutes pour arriver à tirer quelque chose, parce que je crois que c'est effectivement 4 euros pour 1000 streams. Donc voilà, il faut faire beaucoup d'écoutes quoi. C'est un peu ce que la direction dans laquelle pousse la plateforme.
Peux-tu nous présenter Groover et les grandes lignes de son mode de fonctionnement?
Alors Groover, c'est une plateforme qu'on a créée il y a maintenant 3 ans. Enfin, ça fait 3 ans qu'elle est en ligne. Et c'est une plateforme en ligne sur laquelle les artistes et leurs représentants peuvent entrer en contact avec les médias, radios, curateurs de playlists, labels, éditeurs, tourneurs, managers de leur choix. L'idée, c'est qu'il y a un peu 3 types de contacts, 3 grands types de contacts. Il y a ceux qui peuvent apporter de la visibilité. Donc, je parlais des radios, des médias, des journalistes, des chaînes YouTube, des playlists. Il y a ceux qui peuvent vraiment devenir des partenaires pour les artistes. Donc ça va être plutôt les managers, les éditeurs, les labels. Il y a aussi une 3e catégorie qui vont être plutôt des mentors, des coachs, il peut y avoir des ingé-sons aussi, et qui vont être plutôt là pour donner des conseils plus détaillés sur des morceaux un peu plus en amont, donc des artistes qui veulent vraiment des feedbacks détaillés sur leurs morceaux. Parce que tout le but de Groover, c'est qu'en fait les artistes envoient leurs morceaux aux médias, radios, labels de leur choix, dans une liste où il y en a plus de 1500. Le modèle économique, c'est qu'ils vont payer 2 euros par contact sélectionné. Donc, s'ils en sélectionnent 20, ça va être 40 euros. S'ils en sélectionnent 30, ça va être à peu près 60 euros. C'est à peu près la moyenne aujourd'hui. Même si ça peut partir beaucoup plus bas, on peut mettre 10 balles. Et derrière, on peut mettre beaucoup plus d'argent si ça fonctionne bien et qu'on veut contacter plus de personnes. Et on va garantir que dans l'intervalle d'une semaine, ces personnes vont écouter votre morceau et vous faire au minimum un retour écrit sur ce qu'ils en pensent. Pas forcément partager, pas forcément aller plus loin avec votre musique ou avec vous, mais au moins vous faire un retour. Parce que notre but, c'était ça, c'était de casser ce mur de la première écoute. Donc, sachant qu'aujourd'hui, les artistes envoient des centaines de mails, personne répond parce que personne n'a le temps d'écouter. Ou alors, ils passent par les attachés presse et ça peut être compliqué parce que les attachés presse choisissent vraiment leur projet. Ils vont refuser en moyenne 9 projets sur 10. c'est un budget qui est très important. Il faut vraiment pouvoir bosser avec le bon attaché presse pour son projet. Quand on démarre, c'est pas forcément pertinent alors que personne nous connaît d'avoir un attaché presse. C'est peut-être plus pertinent après dans son projet. Et donc, on voulait créer cette voie qui permet à n'importe quel artiste qui a un morceau qui sort de pouvoir contacter des médias et des pros et d'avoir cette garantie de retour. Sachant que s'il n'y a pas de retour dans l'intervalle d'une semaine, vous récupérez en tant qu'artiste des crédits pour contacter d'autres personnes. Donc en fait, on garantit vraiment ce retour de manière efficace et idéalement des partages et des opportunités qui peuvent en découler.
Et les professionnels présents sur la plateforme sont rétribués ?
Exactement. En fait, sur les 2 euros qui sont payés pour contacter chaque média ou professionnel, il y a 1 euro qui revient au média ou au pro quand il fait son retour, quelle que soit sa décision. Donc en fait, qu'il ait décidé d'accepter le morceau ou non, tant qu'il respecte les règles qui sont de faire un feedback constructif, personnalisé à l'artiste, ils vont être rémunérés 1 euro et nous, on va garder 1 euro en commission.
Peut-on rejoindre la plateforme en tant que professionnel et être ainsi rétribué ?
Ouais, on peut. Il y a des critères, par contre. Et nous, on trie sur le volet les médias et professionnels qui sont présents sur Groover. Là où tous les artistes peuvent utiliser Groover tant qu'ils ont un morceau avec un lien SoundCloud ou YouTube, il n'y a pas de frein. De l'autre côté, par contre, on contrôle vraiment la qualité des médias et professionnels qui sont présents selon plusieurs critères. Le premier, ça va être, est-ce que ce média ou ce professionnel a un impact? Même s'il est petit, même s'il est sur une niche, est-ce que il va communiquer à des personnes qui vont suivre ce qu'il va dire? Donc, typiquement, ça peut être un petit média qui a une communauté de quelques milliers de personnes qui le suivent et qui lisent ses articles. Ça peut être une playlist qui a des auditeurs réguliers. Enfin, voilà, c'est typiquement cet exemple-là. Et le deuxième gros critère, c'est la qualité éditoriale. C'est-à-dire que parfois, on va mettre en avant des médias qui n'ont pas forcément une audience énorme, mais qui écrivent des contenus de très grande qualité, des articles super intéressants pour les artistes ou qui ont une super image en tant que radio en ligne parce que ça apporte quelque chose à l'artiste. L'artiste peut communiquer ensuite sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est de toujours balancer ces deux éléments-là, qui est à la fois une qualité éditoriale minimale et qui a un impact minimal.
Comment doit-on procéder pour intégrer une ou plusieurs playlists en passant par Groover ? Y a-t-il une sélection des projets musicaux ?
Pour reprendre un peu depuis le début, donc le contact aux playlists, c'est vraiment une activité qui s'est développée beaucoup sur Groover, le contact des playlists indépendantes de Spotify. Donc c'est pas les gens qui travaillent chez Spotify, mais c'est des gens qui ont des playlists, qui ont de l'influence et de l'impact et qu'ils ont animé depuis quelques temps sur Spotify et qui permettent de toucher des nouveaux auditeurs. Ces playlisteurs indépendants qu'on trie et dont on vérifie l'impact, il vaut mieux les contacter une fois que le morceau est sorti, donc le jour de la sortie ou après. Pour une raison simple, c'est que eux vont avoir envie d'avoir tout de suite le lien Spotify parce qu'ils vont avoir un traitement des morceaux qui est beaucoup plus rapide qu'un média qui va devoir écrire un article, qui va prendre du temps, etc. S'ils vont aimer le morceau que vous leur envoyez, ils vont souvent l'ajouter tout de suite à leur playlist. Donc en fait, si le morceau n'est pas encore sorti, ça peut aussi être pour eux une raison de refuser le morceau, même s'ils l'aiment bien, parce qu'ils n'auront pas le temps en fait de revenir dessus. Donc le premier conseil que je donne, c'est vraiment attendez que votre morceau soit sorti, le jour de la sortie ou après pour l'envoyer. Et vous pouvez l'envoyer bien après sa sortie, parce que les curateurs de playlist sont moins regardant sur le fait que ça soit une nouveauté ou pas. Donc si votre morceau est sorti il y a 6 mois ou est sorti il y a 1 an et que vous pensez que le playlister ça peut lui plaire et qu'il connaît pas votre musique, vous pouvez complètement les contacter. Ça fait complètement sens et ça peut tout à fait marcher. Ensuite, de leur côté, sur Groover, eux prennent une décision de soit vous faire juste un retour, soit décider d'ajouter le morceau à leur playlist. Donc, si vous faites un retour, ils peuvent vous dire, par exemple, c'est pas vraiment dans notre ligne éditoriale, sachant que nous, on couvre plutôt ça, ou j'ai bien aimé ça, mais j'ai moins aimé ça, etc. Mais s'ils acceptent le morceau, en fait, ils vont vous dire, je vais l'ajouter à telle playlist. Soit ils le font immédiatement et ils vous partagent le lien de la playlist, soit ils vont pas le faire forcément tout de suite, mais vous serez prévenu quand ils vont le faire, parce qu'ils vont aussi remplir le lien de la playlist Spotify dans laquelle ils auront ajouté votre morceau. Et nous, au sein de la plateforme, on a un outil qui les aide à l'ajouter plus facilement à leur playlist, à le programmer, etc.
Est-il aujourd'hui plus facile d'être playlisté en passant par un distributeur digital plutôt que par un agrégateur comme DistroKid ou iMusician ?
Si tu m'avais posé cette question il y a 3 ans, j'aurais dit non. Mais aujourd'hui, je revois vraiment cette question-là. Parce qu'en fait, le fait est que TuneCore, SpinUp, iMusician, CD Baby, DistroKid, en fait, ils vous font payer un frais fixe et que vous fassiez 10 millions de streams ou un stream, ça ne change rien pour eux. Donc en fait, ils vont pas défendre votre projet auprès des éditos, des équipes éditoriales, des plateformes de streaming parce que ça change rien pour eux. Ils ont pas de système de pitch. Ce qui est intéressant avec un distributeur digital, c'est que le modèle est différent. Ils vont prendre un pourcentage en fait de vos royalties plutôt que vous faire payer un frais fixe. Et donc comme ils vont prendre 10% par exemple, c'est souvent la moyenne 10 ou 15%, parfois ça peut être plus, eux ça va justifier que leur but va être que vous fassiez plus de stream et d'écoute. Donc ils vont être poussés à aller le présenter à des éditos de plateformes de streaming pour que ça. Ça veut pas dire que ça arrivera parce que les places sont chères et très limitées, mais en tout cas c'est sûr que vous avez plus de chances d'y arriver si vous avez un distributeur qui défend votre projet auprès des éditos parce qu'il va toucher un pourcentage des streams si jamais ça marche pour vous et que vous entrez dans une playlist que si vous passez par un agrégateur simple.
Peut-on atteindre les curateurs travaillant directement pour les plateformes de streaming ou même des major labels en utilisant Groover?
Alors, on en a rencontré beaucoup, des curateurs éditoriaux chez Spotify, Deezer, Apple Music. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la bonne passerelle. Il y en a certains auxquels on envoie des recommandations de morceaux qui ont particulièrement bien marché sur Groover pour créer un peu un pont de découverte de leur côté et apporter de la diversité, mais c'est pas toujours facile. Côté major, c'est un peu pareil. En fait, on a rencontré pas mal de directeurs artistiques de Polydor, Electra, Parlophone. Et pareil, on leur présente des projets où on pense que ça peut être pertinent pour eux. Par contre, on a du mal à les convertir à s'inscrire directement sur Groover parce qu'ils se font bombarder et qu'en fait, ils ont pas le temps et que eux, de leur côté, ils vont signer 5 à 10 projets par an, prennent peu de risques en fait sur les projets. Ils vont souvent signer des projets qui marchent déjà, ce qui est une grosse frustration pour nous aussi et qui nous embête. Par contre, il va y avoir pas mal de beaux labels indépendants. Là, je prends un exemple. On vient d'inscrire Balagan, qui est un des nouveaux labels de Vagram, sur la musique électronique instrumentale, qui eux cherchent des projets à signer. Il va y avoir Cracky Records, il va y avoir des labels comme assez importants au Brésil ou en Italie qui ont signé des projets et qui ont signé des artistes. On a eu plus de 500 signatures en label, éditeur, tourneur, manager depuis le début de Groover. Donc ça a des partenaires qui sont plus indépendants et un peu plus petits ou taille intermédiaire que des plus gros, mais c'est souvent un super pont et un super tremplin.
Quels sont les styles musicaux qui ont le plus de chances d'être playlistés?
Alors nous, le but depuis le début, ça a été d'être super éclectique, de pas avoir une couleur musicale particulière. Après, c'est sûr qu'il y a les genres, il y a des genres dominants, des genres de tendances qui marchent mieux. En tout cas, pour lesquels il y a plus de médias et pros disponibles, on va plus dire les choses comme ça. Ça va être plutôt tout ce qui est musique indie, pop, rock, folk. Il y a beaucoup de monde. Ensuite, ça va être les musiques électroniques. Et bien sûr, rap, hip-hop, où on a de plus en plus de contacts et de plus en plus d'artistes. Ça, c'est un peu les courants dominants. Mais on a aussi énormément de curateurs sur d'autres genres plus de niches, dits plus de niches. On peut en avoir en jazz, il y en a aussi sur de la musique classique ou néoclassique ou ambiante. On va avoir beaucoup de playlisteurs qui aiment bien ça, qui sont spécialisés là-dedans et qui ont des belles audiences. Là, c'est des exemples, mais musique du monde aussi, musique africaine. On a beaucoup développé le Brésil, donc en fait, les musiques brésiliennes aussi, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est des sujets. L'idée, c'est de pouvoir couvrir un peu tout ça. On a aussi des médias et des pros qui couvrent le métal, le hard rock. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir représenter toutes les tendances et qu'un artiste, quand il arrive sur Groover, il trouve toujours des contacts pour lui.
La tendance semble aller vers une réduction de la durée des morceaux. Confirmes-tu cette tendance ?
C'est sûr que, en fait, il y a un truc qui se reproduit, qui est un peu ce qui était le truc des radios à l'époque, c'est que les radios diffusaient des morceaux de 3 minutes ou moins. Et il y a un peu le même sujet sur Spotify, c'est-à-dire que les places sont chères. Ça vient du système de rémunération de Spotify qui fait que ils vont vous comptabiliser un stream à partir de 30 secondes écoutées. Et donc, en fait, quelqu'un qui va écouter votre morceau de 10 minutes épique rock progressif et quelqu'un qui va écouter un morceau d'une minute 30 kické en rap, en fait, ça va rapporter la même chose en termes de revenus, ce qui est assez frustrant. Personnellement, j'aimerais arriver à voir à un moment une plateforme de streaming qui s'engage sur une rémunération plutôt sur la durée d'écoute que sur le nombre d'écoutes. Je trouve que ça serait hyper pertinent parce que ça permettrait de donner cette liberté de format. Il y a aussi les playlists, les curateurs de playlists qui en fait ont envie que leur playlist soit écoutée pas mal en entier ou que beaucoup de morceaux soient écoutés et qui du coup vont avoir tendance à mettre peu de morceaux très longs parce que ça va empêcher en fait de développer l'audience de leur playlist vu que les personnes qui vont arriver vont avoir un temps limité et s'ils écoutent 15 minutes leur playlist, ils vont écouter que 2 morceaux au lieu d'en écouter 6 par exemple. Donc il y a cette tendance là, je confirme vraiment qu'il y a cette tendance en tout cas dans certains styles musicaux. Je pense qu'un morceau comme Shine On You Crazy Diamonds de Pink Floyd aujourd'hui, où ils ont leurs 6 parties, en fait, ils auraient fait les 6 parties coupées. On voit aussi des gens qui mettent des interludes d'un peu plus de 30 secondes et qui, pareil, vont compter en stream. Je pense que c'est plus à quel point vous avez envie, au niveau de votre art, d'être très pur et de faire le format que vous avez envie au départ, ou est-ce que vous avez envie d'être malin et créatif avec le système tel qu'il est. Si vous avez envie d'être malin et créatif avec le système tel qu'il est, il y a plusieurs méthodes. Il y a celle-là, faire des morceaux courts, les couper, faire des albums avec 20 pistes qui s'enchaînent. Voilà, il peut y avoir ces éléments-là. Et après, il y a une autre méthode à laquelle je pensais qui est pas mal, qui peut être un tips, une astuce, qu'on fait récemment Parcells, qui a sorti son premier single. Ils ont sorti un deuxième single, ils l'ont sorti comme un 2 titres en remettant leur premier single comme le deuxième titre du 2 titres. Et ensuite, ils ont sorti leur troisième single en le sortant comme un 3 titres en remettant les 2 premiers titres en dessous. Et puis quand ils ont sorti l'album, ils ont killé ces singles-là. Mais en fait, à chaque fois qu'il y avait un single qui sortait, personne qui venait écouter le single, dans la foulée, écoutait le morceau qui était déjà sorti avant. Donc ça permettait de contribuer à faire monter le volume des streams et continuer de pousser la tendance de morceaux qui étaient sortis avant. Et ça marche plutôt pas mal. Il suffit de garder le même code ISRC et ça fait pas de doublon en fait. Ça garde vraiment le morceau avec la comptabilisation du nombre de streams. Et c'est une méthode qui est faite de plus en plus par les labels qui se renseignent sur ces méthodes un peu modernes et qui entachent pas du tout l'œuvre ou la manière dont elle est présentée et en même temps profitent bien du système.
Quelles sont les perspectives de Groover dans les années à venir ? Faire grossir suffisamment l'entreprise pour la revendre à une major, peut-être ?
Non, en fait, tu l'as peut-être senti là pendant le podcast, mais nous, c'est vraiment une mission qui nous tient à cœur. Genre, j'y passe franchement ma vie et mes associés, c'est pareil depuis 3 ans et demi, à juste comment est-ce qu'on peut aider les artistes et comment est-ce qu'on peut leur faire passer un cap. Donc, il y a cette vision de aider les artistes à faire découvrir leur musique. Et puis, il y a ce deuxième step qui est hyper intéressant de se dire, en fait, quand on découvre des artistes super talentueux, super prometteurs, mais qui n'ont pas d'entourage, qui ont besoin un peu de cette aide en plus ou d'être connectés avec les bonnes personnes pour passer un cap, comment est-ce que nous, on peut les aider à accélérer? Donc, c'est un peu le deuxième pan de la vision de dire, dans les artistes qui utilisent Groover, il y en a qui se démarquent. Comment est-ce qu'on peut les emmener encore plus loin? Et en fait, ça, c'est vraiment un pan de la vision qu'on est en train de développer en ce moment et qui est super excitant. Et nous, la vision, c'est clairement pas de revendre, c'est d'être un acteur de référence de la promotion musicale, c'est-à-dire qu'on soit un réflexe pour les artistes. De la même manière que tu vas sur un distributeur ou que tu vas sur Spotify for Artists, où tu dis, je vais envoyer une campagne sur Groover parce que ça va m'apporter de la visibilité, ça va me permettre de développer mon réseau. Nous, c'est le but, c'est d'être un réflexe là-dessus. Et à côté de ça, de développer un peu deux pans qui sont les conseils aux artistes plus globaux sur leur développement de carrière et de leur projet. On a avec le blog, le podcast, on va essayer de développer d'autres choses à venir parce qu'on sent que ça aide beaucoup. Je fais beaucoup d'ateliers aussi, j'adore ça et c'est chouette de pouvoir aider les artistes de manière concrète. Et le deuxième pan, c'est ce côté pour le top des artistes qui utilisent Groover mais qui ont encore vachement besoin d'aide et d'accompagnement. Comment est-ce qu'on les pousse encore plus loin et que potentiellement on en fait des super artistes qui arrivent à vivre de leur musique ou même carrément des superstars. C'est pas forcément l'objectif numéro un, c'est plus de les aider à vivre de leur musique. Mais il y a un peu ces deux tendances qui étirent le modèle.
Merci à Dorian Perron pour ces réponses précises qui vous aideront sans doute à mieux mettre en avant vos projets musicaux sur les plateformes de streaming. Enchaînons sans plus attendre avec notre deuxième sujet consacré aux enjeux du streaming.
Let's Prod, le podcast de la production musicale.
Le streaming représente aujourd'hui plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie musicale. Être présent sur ces plateformes devient donc quasiment indispensable. Mais comment arriver à se différencier face à la grande quantité de musique qui sort chaque jour ? Il faut tout d'abord comprendre que l'essentiel des écoutes se fait au travers des différentes playlists. Ces dernières sont généralement gérées directement par la plateforme de streaming elle-même, en partenariat avec les trois majors que sont Sony Music, Warner et Universal. De ce point de vue, vous avez donc peu de chances d'intégrer des playlists influentes sans être signé dans l'une de ces trois maisons de disques. Fort heureusement, dans ce monde digital, des sociétés spécialisées dans la distribution pourront mettre en avant votre musique sur les différentes plateformes de streaming sans que vous ayez à intégrer l'une des trois majors. C'est le cas par exemple de Belief Digital ou Idol qui proposent ce genre de service. Rien ne vous empêche donc de produire vous-même vos morceaux et de signer un contrat de distribution avec ce type de société. C'est d'ailleurs la façon de procéder de très nombreux artistes. Si vous désirez rester totalement indépendant, c'est-à-dire même au niveau de la distribution, vous pouvez essayer de contacter des curateurs. Les curateurs comme Groover sont de véritables managers de playlists et sont continuellement à la recherche de nouveaux artistes et de nouveaux morceaux. En parallèle, il serait pertinent d'être édité. L'éditeur musical sera en quelque sorte le représentant commercial de votre musique et mettra tout en œuvre pour placer celle-ci le plus souvent et le mieux possible dans le but de générer des écoutes et donc des revenus. C'est l'éditeur qui travaillera par exemple pour que votre musique soit utilisée dans une publicité, un film, un jeu vidéo ou tout autre contenu multimédia. On parle alors de synchronisation à l'image. Un éditeur digne de ce nom travaille aussi généralement en étroite collaboration avec les radios. Parmi bien d'autres, nous pouvons citer des sociétés d'édition comme Warner Music Chapel ou encore Because Music. Parallèlement à tout ça, ne négligez pas les chaînes YouTube. Elles sont pour la plupart créées par des passionnés de musique qui sont à la recherche de nouveaux artistes émergents. Prenons le cas du producteur français Petit Biscuit, repéré par la chaîne Electroposé. Son titre Sunset Lover engrange de nombreuses vues sur la plateforme vidéo avant d'être intégré à une playlist Spotify influente qui lancera véritablement sa carrière. Enfin, ayez toujours à l'esprit de travailler une identité artistique complète et cohérente. A minima, cette identité doit être musicale et visuelle. Vous devez aussi penser à développer vous-même votre fanbase, notamment sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen pour lancer votre carrière et commencer à engranger un nombre conséquent de streams. De plus, vous devez montrer que vous êtes capable de développer seul une fanbase avant d'intéresser les plus grands labels. Terminons cet épisode de Let's Prod avec quelques techniques de mixage et de mastering, ayant pour but de vous aider à mieux sonner sur les plateformes de streaming.
Let's Prod.
Les plateformes de streaming ont mis en place un système de bridage de niveau sonore pour harmoniser le volume entre chaque morceau et assurer à l'auditeur un volume d'écoute constant. L'unité de mesure est ici le LUFS. Spotify ou encore Deezer brident le volume moyen autour de -14 LUFS. On peut alors se demander s'il est utile de masteriser à des niveaux LUFS importants. sachant que la plateforme va finalement réduire le niveau du morceau. Plutôt que de parler de LUFS, il faut plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle la dynamic range, c'est-à-dire l'écart en décibels entre les crêtes du son et le volume moyen. Cette dynamic range est en réalité plus importante que le niveau moyen LUFS. L'algorithme Spotify permet par exemple d'aller jusqu'à 9 dB de dynamic range. Ainsi, si les crêtes de votre morceau arrivent à 0 dB, vous pouvez sans problème masteriser autour de moins 9 LUFS et obtenir ainsi 9 dB de dynamic range. Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les crêtes qui donnent la sensation de volume perçu, mais bien la dynamic range. Pour la réduire, il faudra faire appel à de nombreuses techniques d'ingénierie sonore. Nous pouvons citer la compression, la limitation, la compression parallèle ou encore la saturation. La formation Mixage et Mastering proposée par DJ Network explique en détail toutes ces techniques qui permettent d'optimiser ce que nous appellerons le rendu sonore, en streaming comme pour n'importe quel autre mode de diffusion. Qu'en est-il de la qualité audio proposée par chaque plateforme ? Eh bien, elle est différente sur chacune d'entre elles. Tidal et Apple Music, par exemple, proposent un service de streaming haute qualité, tandis que la plupart de leurs concurrents ne proposent en général que des versions MP3 compressées. Chaque plateforme possède son propre algorithme de conversion. Avant de sortir officiellement un morceau, nous vous conseillons de l'uploader sur un premier compte fantôme via un agrégateur. Ceci vous permettra d'écouter votre morceau sur les plateformes, d'évaluer la qualité de conversion et de procéder éventuellement à des ajustements. J'espère que nos conseils sur le sujet vous auront intéressé. Si c'est le cas et que vous voulez que Let's Prod continue, pensez à nous soutenir en laissant un commentaire et bien sûr un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. À très vite pour un nouveau numéro de Let's Prod.
Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network. L'école des DJ et du son.